vais prendre l'initiative de déjà déboucher ma bouteille d'eau.
Oui, bonne idée.
Je me rappelle ce commentaire la dernière fois. Ouais, ça va pas là.
Non.
Ah, mais j'ai oublié.
Tu verras. Tu verras, je vais vous trouver. C'est les derrière. Ouais, là.
Alrighty. Bon, donnez-moi 2 secondes. OK. Alright. Fait qu'avant de commencer, on va faire de quoi ensemble? Yay! Est-ce que vous pouvez me citer des passages de l'Ancien Testament qui sont nommés, ben, cités justement dans le Nouveau? Est-ce qu'il y en a qui viennent en tête, comme ça, à cœur de main? Guillaume.
Si ton roi vient à toi sur un arbre, okay. Zacharie 9-9, là, pas sûr d'exactement tous les mots. Là.
OK, Amélie. Et
si l'homme quittera son père et sa mère, sa femme, sa femme.
C'est vrai, c'est bon ça, oui.
Le jeu qui vivra par la foi.
Ah, oh, ben, on a trouvé celui que je voulais, mais vas-y.
C'est psaume 22.
Psaume 22? Mm-hmm.
Tiré au sort de la
tunique. Ouais, ben oui, c'est vrai. On dedans. Ben oui, c'est. T'as-tu lu dans mes pensées, Maxime? Ben oui, c'est.
J'ai juste
l'attitude, là. Ouais, mais oui, aujourd'hui, ben c'est ça qu'on va voir. C'est le juste vivra par la foi, qui est nommé quelques fois dans le Nouveau Testament. Combien de fois, vous pensez? Guillaume, il sait, là, c'est sûr, là. Les autres, mettons, qui n'ont pas vu le chiffre qu'il a fait avec ses doigts.
Ah, ok, c'était pas ça, genre.
C'était ça
que j'ai fait. OK. Oh. Quelqu'un qui veut prendre un guess, Maxime a dit 4. 5. 5. 12. 59. Non, mais c'est 3. Oh. Comme. Mais ça fait 4 avec la citation originale de Habacuc, simplement. Fait que. Puis dans le fond, ça donne bien parce que c'est une fois par mot. T'sais. Juste vivra foi. Fait que la première fois, ben, dans que c'est cité après Habacuc, donc en Romains 1:17, je pense que c'est 10:17. Oui.
1:17.
C'est 1:17? OK, ouais. Ben, c'est pour parler, d'expliquer c'est quoi le juste. Dans Galates 3:11, c'est pour c'est quoi la foi. Et dans Hébreux 10:38, ben, c'est pour ce que c'est de vivre par la foi. Puis bon, j'avais à cœur de vous amener ça. Ça ferait beaucoup en une seule fois. Fait qu'on va commencer par le début, ben, par aller voir d'où ça vient ça, justement, dans l'Ancien Testament, dans Habacuc, tout simplement. Puis voir c'est quoi tout ça, être justifié par la foi, puis qu'est-ce que ça nous amène. C'est un terme très important dans le Nouveau Testament, tu sais. On le sait, on est justifié par la foi, c'est ça qui nous amène la vie éternelle. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Fait qu'on peut tourner ensemble dans Habacuc, un petit livre. C'est difficile peut-être à trouver. Si vous partez de Daniel, c'est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc. Puis si vous partez à l'inverse, c'est de c'est Matthieu, Malachie, Zacharie, Sophonie et Habacuc.
Tu dis Agé?
Oui, je l'ai dit, mais c'est... Okay. Non, j'ai pas dit. T'as raison. Agé, Sophonie, Habacuc. Bon. Fait qu'on va lire ensemble. Parce que là, finalement, mon plan a comme changé un peu. Fait qu'on lira pas le passage que je voulais. OK. On va lire les versets 5 à 11 ensemble.
Chapitre 2.
Chapitre 1.
Ah.
Parce que aujourd'hui, on va voir d'où ça vient, ça. Fait qu'on a le contexte un petit peu avant. Donc, chapitre 1, verset 5, on va commencer là. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, Il vole comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et ils assemblent des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc on va prier ensemble. Seigneur, merci de nous donner du temps aujourd'hui pour regarder justement l'origine de cette belle citation-là, de ce beau verset-là, que le juste vivra par la foi. Puis merci que c'est si simple que ça, qu'on est justifié par la foi, Seigneur. Fait qu'aujourd'hui, on va voir justement des choses par rapport à ton jugement, Seigneur, des choses qui sont un peu amères comme ça. Aide-nous à voir ta gloire là-dedans, puis à te rendre grâce pour les moments faciles, pour les moments doux, puis pour les moments plus difficiles, parce que tu te manifestes là-dedans, puis ta vie ne dépend pas de la situation dans laquelle on est, mais elle dépend justement de la foi, puis du fait qu'on regarde vers toi. Je confie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen.
Bon, on a aussi éteint. All right. Bon, fait qu'on a quand même beaucoup de stock à voir ensemble, puis si vous voulez qu'on commence par quelque chose, on pourrait dire merci à Amélie pour commencer, parce qu'à la base, ça leur aurait été un long sermon de genre probablement 1h30 si j'avais voulu faire tout mon stock, mais le Seigneur l'a utilisé pour me montrer que ce serait peut-être mieux de le diviser en deux, fait qu'on va juste voir la moitié de ce que j'avais voulu au début, fait qu'on va pouvoir partir, pour la maison avant 19h, yes! Donc, on a beaucoup de stock à voir, mais pour commencer, ben, on va voir un peu, pour comprendre la structure de ce livre-là. Parce que moi, en tout cas, personnellement, les premières fois que je l'ai lu, je ne comprenais rien. Il y a beaucoup de langage, ça parle d'animaux là-dedans, ça parle de proies, ça parle là, les parallèles que ça fait. Des fois, je ne comprenais rien. Fait que le fait de comprendre comment le texte est divisé, pour vrai, juste là en partant, ça m'a bien aidé. Dans le fond, ce livre prophétique-là, il est différent de beaucoup des autres prophètes, parce que tu sais, beaucoup des prophètes qu'on a, ça va être de l'exhortation, des nouvelles prophéties, puis des choses de même. Puis dans Habacuc, on retrouve rien de ça. Dans Habacuc, oui, il y a des prophéties, mais c'est pas des prophéties qui sont nulle part ailleurs dans la Bible. Dans le fond, Habacuc est divisé comme une discussion. C'est une discussion entre le prophète et Dieu. On a 3 prières de Habacuc et 3 réponses de Dieu par des prophéties. Donc, une prière en premier lieu dans le chapitre 1 des versets 1 à 4 qui est une prière de frustration, une réponse de l'Éternel qu'on a lu ensemble. Les versets 12 à la fin du premier chapitre, c'est la deuxième prière de Habacuc, une prière de peur, une réponse de l'Éternel au chapitre 2 et à la fin, le chapitre 3, ben, c'est la prière de foi de Habacuc. Fait que déjà là, on comprend un peu plus où est-ce qu'on s'en va comme ça. Pour essayer aussi de comprendre le contexte historique de ça, tu sais, comprendre c'est où, quand est-ce qu'Habacuc vivait, qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, ben, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on sait, mais il a vécu, puis ce livre-là a été écrit dans cette période-là, dans le fond, entre la mort du roi Josias et les premières attaques babyloniennes sur Jérusalem. Simplement. C'est une courte période de 5 ans environ dans laquelle ça avait été écrit. Donc, pour commencer, ben, j'ai parlé un peu, c'est ça, du roi Josias qui est... OK, on va essayer ça. Maxime, le roi Josias était le fils de...
Son père.
C'est vrai. C'est très proche, c'était son grand-père.
OK.
Mais, dans le fond, la succession de Manassé à Josias s'est fait très rapidement parce que Amon il a vécu à peine 2 ans avant d'être trahi. Fait que, Manassé il a vécu 51 ans, il a régné 51 ans, Amon un court 2 ans, puis après ça on a Josias qui a régné 31 ans. Simplement. Bon, fait que Manassé, est-ce que c'était un bon roi selon vous? Non. Plus ou moins, très mauvais. C'était un très mauvais roi. Ses 51 ans de règne... 50 ans? 55. Ses 55 ans de règne ont été marqués par l'idolâtrie, les sacrifices d'enfants, la violence, les meurtres, j'en passe. Amon, son fils, ben, ça, comme 2 rois 21 nous dit qu'il a marché dans les voies de son père Manassé. Fait que la même chose pour 2 ans de plus. Fait que 57 ans d'idolâtrie à partir de là. Puis avant. Bon, suivi enfin, Josias, ça fait. Je vais dire Josias tout le long. Josias, est-ce que c'était un bon roi?
Oui.
Ben oui, c'était un bon roi. En fait, 2 rois 22 nous dit qu'il a marché dans les voies de son père David. Donc lui, il a sauté une couple de générations, puis il a dit non, je vais marcher comme le bon roi David. Il s'est retrouvé là. Donc son règne de 31 ans, ça a été un temps de renouveau dans la foi, un temps de revival. Avec le temps, il est retourné vers l'Éternel. Ils ont retrouvé la loi qu'ils avaient perdue pendant le règne de Manassé. Donc là, ben là, il y a le pays retourne vers la prospérité parce qu'il retourne vers Dieu, tout simplement. Fait que, tu sais, Dieu, il est béni à cause de ça. Mais malheureusement, ben, semble-t-il que dans le cœur des gens, ils n'étaient pas tous vraiment tournés vers l'Éternel. Ils devaient profiter de la prospérité, ça c'est sûr. Ils devaient être contents d'avoir une bonne job et que ça allait bien. Mais dans leur cœur, ils étaient encore orgueilleux, puis tout ça. Parce que dès la mort de Josias au combat, ben, tout de suite, le pays retourne dans l'idolâtrie, directement. Puis c'est à ce moment-là que Habakkuk, il est dans le décor. T'sais, il a dû vivre pendant une bonne partie de sa vie, dépendamment de son âge, on ne sait pas trop, mais peut-être dans une partie du règne de Manassé, après ça, le règne de Josias, au moins le règne de Josias. Fait qu'il a vécu le revival, il a vécu le retour vers l'Éternel. La bénédiction, c'était, puis là, il voit son pays, sa nation, encore retourner dans l'idolâtrie, encore retourner, puis s'éloigner de Dieu. Fait que c'est là qu'on commence le chapitre 1. Maintenant, fait qu'on va le lire ensemble. On va essayer de faire ça relativement rapidement. Donc, comme j'ai dit, première prière d'Habakkuk, les versets 1 à 4, qui sont une prière de frustration. Donc, 2 à 4. On va lire à partir du verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Donc, verset 2, on voit, évidemment, le prophète, ça fait depuis longtemps qu'il est en train de prier à Dieu. T'sais, ça fait peut-être des années, des mois qu'il est en train de prier à Dieu, de lui demander, hey, Seigneur, pourquoi tu fais pas revivre la flamme de la foi dans ton peuple? T'sais? Pourquoi tu nous laisses aller à l'idolâtrie comme ça? Seigneur, pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Puis, littéralement, si on prend le verset 2 où est-ce que c'est écrit « J'ai crié vers toi à la violence », la façon dont c'est écrit dans l'hébreu, le « Allah », il n'est le pas « Allah », mais le « Allah », il n'est pas présent. Donc, c'est écrit « J'ai crié », ce serait écrit dans le fond « J'ai crié vers toi, Seigneur, violence! Il y a de la violence dans le pays, Seigneur! Puis tu fais rien, c'est contraire à ce que tu veux! » Et tu ne secours pas. Verset 3. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Bon, moi, tout ça, c'est comme ça me fait penser à 2025. Habakkuk, tu vas vivre dans ce temps-là, je sais pas, mais tu sais, c'est littéralement écrit ça. Pourquoi tu me fais voir l'iniquité? Le mal n'est plus caché dans ce temps-là. Les statues d'idolâtrie sont élevées devant tout le monde. Le mal, la violence, tout ça, il n'y a rien de caché. Peut-être le monde, c'est comme aujourd'hui, ils prenaient identité dans leur péché puis tout ça. Il n'y avait pas de trouble. C'était la norme, en fait. Puis on le voit ça au verset 4. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. Donc, la loi, elle n'a plus de vie. Elle ne sert à rien. Parce que, malheureusement, tout le monde est méchant. On ne peut pas juger un, puis pas juger l'autre, parce que tout le monde fait le mal. Puis, justement, tu sais, car le méchant, ce qu'on dit juste, sont plus nombreux, c'est la norme. Donc, un moment, c'est très difficile, justement, pour un homme de Dieu comme Habakkuk, on peut se l'imaginer. C'est parce qu'on le vit en ce moment d'une certaine façon. Donc, maintenant, on se lance dans la réponse de Dieu à Habakkuk, justement, qu'on a lu tout à l'heure. Il faut prendre le temps de regarder un petit peu plus ça. Donc, l'Éternel, d'une certaine façon, il décrit ce qui va se passer. Il répond à Habakkuk qui se plaint au Seigneur. « Hey, Seigneur, tu fais rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'impression qu'il y a toi qui se passe, Seigneur. » Puis ce que Dieu, il dit, non. Habakkuk, je suis au travail. Il y a de quoi qui se passe en ce moment. Puis c'est tellement incroyable ce qui va se passer que si je te le disais, tu penserais avoir entendu d'autres choses. C'est littéralement ça qui est écrit au verset 5. Jetez les yeux parmi les nations et regardez. Soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Donc le Seigneur va envoyer les Chaldéens, donc les Babyloniens, pour piller, raser Jérusalem. Puis c'est ça. Après ça, l'Éternel décrit ce peuple-là qui va envoyer sur eux comme jugement. Verset 7. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Vite comme ça, ça a l'air de rien, mais ce que ça veut littéralement dire, c'est qu'ils n'ont pas de justice. Leur justice vient d'eux-mêmes. C'est eux qui décident ce qui est bien et ce qui est mal à leurs yeux. Fait que c'est tout le temps pour leur intérêt. C'est mon intérêt que tu n'aies plus rien et que tu meurs dans la rue, c'est bien. C'est mon intérêt que si, c'est mon intérêt, ça devient bien pour moi. C'est ça que l'Éternel décrit de ce peuple-là. Ils n'ont pas de boussole morale. Verset 8. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ils volent comme l'aigle qui fonce sur sa proie. L'Éternel les décrit littéralement comme des prédateurs qui font juste aller pour prendre une proie. Eux, ils s'en vont là pour manger. Il n'y a rien qui va les arrêter. Verset 9. Verset 9, je n'ai pas grand chose d'important à voir pour aujourd'hui. On va le skipper. Mais verset 10. Ils se moquent des rois et les princes font l'objet de leur raillerie. Ils se rient de toutes les forteresses. Ils annoncent celles de la terre et les prend. T'sais, aucun roi ne peut résister à sa puissance aux Babyloniens. Aucun mur non plus, aussi grand soit-il. Puis tu sais, les Juifs étaient fiers de leur grande ville, de leur mur, puis ils se sentaient d'une certaine façon en sécurité derrière ça. Mais ce que ça dit, justement, ils amoncellent la terre et les prennent, ben c'est peu importe le mur, il va avoir quelle grandeur, mettre de la terre, ils vont se faire une passerelle, ils vont passer par-dessus. Il n'y a pas de stress avec ça. Verset 11, alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc, les Babyloniens ont le goût du sang. Puis plus ils en ont, plus ils en veulent. Puis plus ils en ont, plus leurs faux dieux sont glorifiés à ça. Parce qu'eux, ils vont attribuer ce succès-là qu'ils vont avoir à leurs idoles, à leurs faux dieux. Ils disent « Hey, check ça, on rase tout, nos dieux sont plus grands que les leurs. » Fait que leurs faux dieux sont glorifiés en plus de ce succès-là. Puis, bon, vite de même, c'est compréhensible. L'incompréhension de Habacuc est compréhensible dans ce cas-là. Tu sais, imaginons, tu sais, c'est ça, on est justement... T'sais, nous, dans notre église, tout ça, t'sais, on sait qu'on est les enfants de Dieu. Puis, t'sais, on sait qu'il nous aime, puis on le sait tout ça. Puis là, on entend que Dieu, il s'en vient, puis là, il y a un jugement qui va envoyer des... On pourrait dire, on pourrait prendre des musulmans. T'sais, il va envoyer des musulmans sur nous, puis eux, ils sont idolâtres, puis ils font ci, puis ils font ça. Puis, hein, tu veux utiliser ça pour nous juger, Seigneur? Tu voudrais pas peut-être envoyer, tu sais, un prophète nous voir à la place, puis nous ramener vers toi? Ça me semble que ce serait mieux, Seigneur. Fait que c'est un peu ça qu'Habacuc se dit là, dans sa deuxième prière. Allons voir le verset 12. En premier, au verset 12, ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'en remet à Dieu. « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Dans le fond, ça marque. Le premier verset marque une genre de coupure dans la prière, là, si on veut. Normalement, c'est le genre de choses que nous, on prierait à la fin d'une prière. Tu sais, c'est comme Ah Seigneur, je te demande ça, puis je te remercie parce que tu es saint, puis t'es le très grand, t'es le très haut. Habacuc fait un peu l'inverse ici. Il commence avec de la théologie au verset 12, puis après ça, le reste, il présente ses inquiétudes à Dieu. C'est un peu curieux, je pourrais pas nécessairement dire pourquoi, mais en fait. On va voir pourquoi plus tard, en fait. Mais c'est ça. Il s'en va vers Dieu et il dit « Hey, tu sais, ce que tu me présentes, Dieu, j'ai pas l'impression que ça marche avec ton caractère. T'sais, je te connais comme un grand Dieu, je te connais comme un grand saint, un juste. Ce que tu me dis, ça me fait me reposer en question un peu, ça me met dans le doute. » Donc, c'est ça. On va continuer avec le verset 13 maintenant. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, les Juifs étaient dans l'idolâtrie. Il n'y a aucune question là-dessus. Il avait complètement tort. Mais il n'y avait pas autant tort que les Babyloniens. Les Babyloniens, eux, ils étaient perdus loin. C'était même pas une question de l'Éternel dans leur pensée. Fait que, tu sais, pour Habakkuk, à ce moment-là, c'est eux, vraiment eux, tu sais, on est terrible, mais on n'est pas tant terrible que ça comparé à eux. Fait que, tu sais, Seigneur, pourquoi c'est eux ton instrument de jugement? Verset 14. Traiterais-tu l'homme comme des poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans son raie. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse? Fait que là, il compare grossièrement Israël à une proie. Il a l'impression que c'est ça que Dieu fait d'Israël. Il les transforme en proie qui ne vaut pas grand-chose. Verset 16. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens et à ses raies. Car par eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Là encore, ça, une fois, moi, je me mettrais dans cette situation-là, puis là, j'aurais des doutes. Là. Si on se remettrait dans une situation, mettons que là, ce serait un peuple d'une autre religion qui viendrait nous envahir, puis qu'il viendrait nous attaquer, puis littéralement nous ramasser, nous tuer. Comme, hey, Seigneur, ils vont glorifier leur faux Dieu. Là. C'est ça qui est écrit, tu sais. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses réfectifs. Leurs faux dieux vont être glorifiés à toi, à la place de toi. Puis Seigneur, tu sais, je sais que toi, tu fais tout pour ta gloire. Fait que pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est des gros points d'interrogation dans la tête d'Habakkuk. Puis, honnêtement, vite comme ça, c'est tout à fait compréhensible. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Grossièrement, ce peuple, il va-tu continuer à détruire les nations continuellement? T'sais, l'idée derrière ce verset-là, c'était « toujours égorgera-t-il sans pitié », c'est « back to back ». Il passe par-dessus des nations déjà, puis tu veux-tu qu'il continue encore à passer par-dessus puis par-dessus? Puis ça, t'sais, ça, je pense encore une fois que ce livre-là a été écrit entre la mort de Josias et le premier exil, dans le fond, qu'on dit. Fait que c'est ça. Fait que la mort de Josias a été au combat contre les Égyptiens qui allaient se battre contre les Babyloniens. Fait que tu sais, le règne des Babyloniens puis leur domination grandissante avait déjà commencé à ce moment-là. Fait que tu sais, le fait de passer sur des nations, c'était déjà commencé. Donc, c'est ça. Fait que c'est dans ce contexte à ce qu'on en est arrivé, puis qu'on va arriver justement à la deuxième réponse de l'Éternel à ce moment-là. Souvent, comment est-ce qu'on entend Habakkuk? Comment est décrit Habakkuk? Comme quel type de prophète? C'est une question que vous pouvez répondre. Amélie?
Lui qui comprend pas ce qui se passe.
Ouais, comment?
Perplexe.
Ouais, on entend souvent que c'est le doubting prophet. C'est le prophète qui doute, le prophète perplexe. Puis tu sais, d'une certaine façon, c'est vrai. Mais ce que je veux apporter, c'est que depuis le début, il y a une certaine attitude de foi qu'on retrouve dans Habakkuk, au contraire. Puis en effet, il n'est pas genre parfait, puis straight line, puis là, tout devant Dieu, clean cut dans sa foi, mais il y a quand même quelque chose de bon qu'on peut retrouver là-dedans. Dans sa première prière, ben, qu'est-ce qu'on voit au verset 2? Ben, c'est qu'il priait continuellement à Dieu. Ça faisait déjà peut-être des années, des mois qu'il priait à Dieu pour ça. Puis ça, c'est une attitude de foi. Malgré l'absence de réponse, il continue à s'en remettre à l'Éternel. Il ne va pas chercher une autre raison. Il ne va pas chercher une autre solution. Il ne va pas chercher... Non. Seigneur, je sais que tu es là, puis je sais que tu m'entends, mais s'il te plaît, réponds. Là. Puis il continue, parce qu'il sait qu'à un moment donné, l'Éternel va répondre. Il sait qui est son prophète. Puis la deuxième et la plus belle des attitudes de foi, j'avais dit qu'on y reviendrait, c'est au verset 12. Malgré la peur, il se réfugie dans ce qu'il connaît de Dieu.
Amen.
Il ne s'en va pas ailleurs, comme chercher du réconfort ailleurs ou une autre solution ou tout ça. Il s'en va vers l'Éternel qui lui a annoncé le jugement qui s'en allait. Ça semble contradictoire, tu sais. Il reçoit la claque de son père, puis il s'en va dans les bras de son père pour se faire consoler. Mais c'est quoi? C'est la bonne solution dans ce cas-là. Puis c'est ce qu'on voit justement au début du chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Grossièrement, Habakkuk fait ce que Jésus a prescrit quand compris. Se retirer. Pas pour garder Dieu à l'intérieur caché, mais pour mettre tout à l'extérieur. Il s'isole. Je ne veux pas être distrait par le reste. Je sais que l'Éternel va répondre. Évidemment, on dirait que dans ce cas-là, la réponse de l'Éternel est venue un peu plus tard que sa deuxième prière, parce qu'il a dû se mettre en retrait. Mais il savait que l'Éternel répondrait. Il savait que son Dieu était fidèle. Donc, sais-tu quoi, Seigneur? Je veux juste m'attendre à toi. Je me mets à part, puis je veux juste recevoir toi. Fait que c'est ça qu'il fait. Parfois, il attend la réponse de l'Éternel. Ça, malgré la peur, il se réfugie. C'est ça. Pour rien dire. C'est donc face à cette attitude-là de foi que l'Éternel répond à Habacuc en suscitant sa foi. On va lire le début du chapitre 2 par la suite. On va lire maintenant. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Par sa foi, c'est vrai. Par sa foi. Mais en effet, lorsque le Seigneur suscite, il va utiliser les deux, trois attitudes de foi qu'Habacuc a eues avant, donc de prier continuellement à lui, de s'en remettre à ce qu'il connaît, à la théologie, et de s'attendre à Dieu. Puis il va lui dire, ça, ce que tu as fait, c'est correct. Garde ça. Continue juste là-dedans. Le reste, je vais m'en occuper. Puis il va donner une prophétie par la suite qui explique ce qui va se passer et ce qui va s'occuper. Ça, on va le voir dans le prochain message, la prophétie. Là, on va se concentrer, parce que ça ferait beaucoup de stock. Là, on va se concentrer justement sur la partie plus du jugement maintenant. Donc, c'est ça. Il va susciter la foi. C'est comme s'il s'en allait dire à son prophète, littéralement, « Le juste vivra par la foi. Habacuc, toi, mon prophète, toi, mon juste, je veux que tu vives et que tu continues dans cette épreuve par la foi. Que tu avances pas par la vue, mais par la foi. » Puis, ben voici deux passages que j'ai retenus qui se sont passés quelques années plus tard de ça. Pendant que Jérémie prophétisait à Sédécias, un des rois de Jérusalem, pendant les exils. Simplement. Est-ce que quelqu'un pourrait tourner dans Jérémie 38? Tu l'as, Guillaume?
Oui.
OK. Quel verset? 17 et 18. Puis, juste avant, Mélanie, après ça, tu nous liras 2 Chroniques 36.
Après, Jérémie?
Oui. Fait que... Guillaume, tu peux nous lire Jérémie 38, 17 et 18 et 21 et 23.
Jérémie dit alors à Sédécias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. »
Amen. Peux-tu lire, tu as lu 17 à 18?
Oui.
Est-ce que tu peux lire 21 et 23 aussi, s'il te plaît?
21. « Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone. Et elles diront, tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes tes femmes et tes enfants seront menés aux Chaldéens. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone. Et cette ville sera brûlée par le feu. »
Amen. Donc, ici on a Jérémie qui annonce quelque chose qui va se passer à Sédécias. Ils lui disent, Sédécias, soit tu te soumets à Babylone, soit tu ne te soumets pas et tu meurs. Mélanie, est-ce que tu peux nous lire 2 Chroniques 36, 12 et 13? Oui, 12 et 13.
Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel.
Le verset 13 aussi, s'il te plaît.
Okay. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Ben, la deuxième partie de la prophétie de Jérémie, évidemment. Jérémie avait dit, je me rappelle jamais du nom.
Sédécias,
soumets-toi, sinon tu vas mourir. Sédécias, dans son orgueil, a raidi son cou. Alors, il s'est enflé d'orgueil. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, exactement ce qui était écrit. Ses femmes, ses enfants, le temple, toute la ville ont été brûlés. Comme ce qui était écrit. Puis c'est exactement ce qu'on voit au verset 4 du chapitre 2 d'Habacuc. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Dans ce cas-là, il s'est passé ce qui devait se passer. Mais le juste vivra par sa foi. Toi, Habacuc, je veux que tu fasses confiance. Puis c'est ça qui se serait l'inverse, c'est qui se serait passé avec Sédécias s'il avait marché par la foi. Il avait fait confiance à la prophétie de l'Éternel qui lui dirait que, paradoxalement, si tu te laisses faire par Babylone, tu vas survivre. Mais il aurait dit son coup. Là où il aurait dû le mettre sous la potence. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc Dieu a tenté de susciter la foi du roi. Que s'est-il passé? Ben exactement ce qu'on s'attendait. Donc, on vient de passer sur quelque chose d'intéressant. Jérémie n'a pas demandé de fuir aux Juifs. Il leur a demandé de se soumettre à leur envahisseur. Pourquoi? Ben parce que c'est la main de Dieu qui a levé ce peuple contre Jérusalem. On pourrait dire, oui, mais ce jugement est terrible, of course qu'on va vouloir s'en aller. Mais ce jugement est juste et saint. Puis ça, c'était justement ce que Habacuc a amené au verset 12 du chapitre 1. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon saint? Dans ce verset, ben c'est là la solution à ce problème. Dans cette attitude de foi, on trouve le réconfort dans le jugement de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu, c'est notre Dieu. C'est mon Dieu à moi. Je suis à lui. C'est mon saint. Je suis à lui. Il va prendre soin de moi. Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes jugements. Ce qui se passe, c'est dans les mains de l'Éternel. Pour vous donner une idée, puis là, ça, on va plus rentrer dans ça dans le prochain message là-dessus, mais Babylone, sa grandeur a duré pile 100 ans. C'est rien. C'est vraiment rien. Puis c'est une nation qu'on entend parler, puis qui procure des légendes, puis tout ça. 100 ans. Flat. 30 ans avant de prendre Israël, Juda en exil. 70 ans après, puis on n'en entend plus jamais parler de Babylone, puis cette terre-là est déserte maintenant.
Et l'Irak.
Puis, c'est ça. Dieu est tout-puissant, puis de toute éternité, alors, il fait ça, puis il le fait pour une raison. Pis ça m'a fait penser à 1 Chronique 21. Cindy, est-ce que tu pourrais tourner là-dedans, s'il te plaît? Les versets 7 à... j'en ai quand même beaucoup. Fais 7 à 11. Et Amélie, est-ce que tu pourrais faire 12 à 15, s'il te plaît?
Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois de défaite devant tes adversaires, atteint par l'épée de tes ennemis ou pendant 3 jours l'épée de l'Éternel, et la peste dans le pays, et l'ange de l'Éternel exerçant la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Et David répondit à Gad, je suis dans dans une grande angoisse. Que je tombe, je te prie, entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont en très grand nombre, et que je ne tombe pas entre les mains des hommes. C'est jusqu'à quoi?
Versets 14 et 15.
Alors l'Éternel envoya la peste sur Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya aussi un ange à Jérusalem pour le ravager. Et comme il ravageait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui ravageait, assez, retire maintenant ta main. Or l'ange de l'Éternel se tenait près de l'air dormant de Jébusien.
Amen. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Un autre jugement de l'Éternel, cette fois sur David, contre ses péchés quand il avait dénombré le peuple illégalement, contre la volonté de Dieu. Puis c'est ça, l'Éternel lui a proposé trois choix. Soit 3 ans de famine, soit 3 mois d'attaque par tes ennemis, puis auxquels je garantis que tu vas te faire battre, ou 3 jours entre les mains de l'Éternel, entre les mains de l'ange de l'Éternel. Puis moi, vite comme ça, la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire-là, c'était hors de question. Que si je me mettais dans la position de David, que j'aille dans les mains de Dieu. Comme, hé, Dieu fait pas mal plus peur que mes ennemis. T'sais, Dieu, j'ai aucun moyen de me défendre de lui. Au moins, tu sais, mes ennemis, je peux essayer de me battre, puis tu sais, j'ai peut-être un bouclier puis une épée qui traîne, puis je vais tenir un bout, puis nanana, tu sais, j'ai peut-être une chance. Mais Dieu fait peur. Mais pourtant, c'est pas l'attitude que David a eue. Il a agi par la foi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Les hommes sont exactement ce qu'on a vu dans Habacuc. Ils sont terribles et formidables. De eux seuls viennent leurs droits et leur grandeur. Dieu, comme Habacuc le dit au verset 12, il est de toute éternité. C'est Dieu, il est saint. Il est juste et il est plein de miséricorde. Donc, c'est ça. Je connais mon Dieu. Il est 3 fois 5. Il est juste. Contrairement aux hommes, il va me donner pas une once de plus que ce que je mérite. Et probablement parce qu'il est miséricordieux moins que ce que je mériterais. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a eu pitié du peuple, justement. Il a dit à son ange, bon. Au Seigneur, c'est assez. Retire ta main. Le jugement des Babyloniens, selon vous, est-ce qu'il était juste?
Parle des Babyloniens?
Oui. Ben, Maxime a fait oui, Amélie fait non. OK, ça ne veut pas se présenter. On ne viendra pas à un consensus. On n'a pas quorum, fait que il faudra revenir la prochaine fois. Mais bon, moi je dis que oui. Pourquoi? Eh bien, de la même façon qu'il a donné Saül comme roi à l'image d'un roi du monde, parce que son peuple, c'est ça qu'il voulait, bien Dieu a livré son peuple au genre de peuple qu'il voulait être, tout simplement. On va revenir dans, justement, notre texte, au verset 7, c'est comme que j'ai relis tantôt, quand Dieu parle des Babyloniens. « Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. » Bien, les Juifs ne voulaient pas de la loi. Dieu leur montre le résultat de ce que c'est être un peuple sans loi, qui fait sa propre loi. Verset 10. Ils se moquent des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Ils se rient de toutes les forteresses. Ils amoncellent la terre et les prennent. Ils mettaient leurs espoirs en leur roi, ils mettaient leur espoir dans leur ville. Bien, Dieu leur donne un peuple qui se moque de ça, qui n'en a rien à faire, qui passe par-dessus. Verset 11. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Ils voulaient être leur propre Dieu. Dieu leur a donné un peuple qui agit comme ça. Ils vivaient dans la violence, l'idolâtrie, la débauche, dans les sacrifices d'enfants. Dieu leur a donné un peuple qui les tuera, les violentera, les violera, tuera leurs femmes, leurs aînés, leurs enfants, les pillera, brûlera leur ville. Exactement ce vers quoi ils s'en allaient. Les jugements de Dieu sont justes. Josiah, est-ce que tu peux tourner puis nous lire Romains 1, 24 à 28? Et lise après, tu nous liras 28 à 32, s'il vous plaît. Romains 1. Mais on veut... 1, 24 à 28, Josiah.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes sont changées l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Jusqu'à 28?
Ouais.
Okay. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes.
Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fantômes, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, de protection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, qu'ils feront dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui le font.
Amen. Donc si on voit le genre de jugement que Dieu donne aux pécheurs, à ceux qui ne cherchent pas, à ceux qui se tournent de lui, puis ben, comme on l'a vu dans les autres exemples d'avant, le jugement de Dieu est toujours juste. Le jugement de Dieu, va, il donne... je sais qu'il y a une expression pour ça, mais tick for tack, c'est-tu? En tout cas, il donne selon ce qu'on a fait. Il donne pas plus, puis souvent moins. Mais il est juste dans ses jugements. Fait que là, ben, on sait que son jugement, c'est juste, on vient de le voir. Mais là, la nouvelle question qui se pose à nous, mais c'est, est-ce qu'il était nécessaire, ce jugement-là? Tu sais, parce que, Seigneur, t'es tout puissant. T'sais, pourquoi t'as pas pu faire, tu sais, justement, un renouveau dans les cœurs? Pourquoi t'as pas pu changer ça dans le cœur des hommes? Luc, est-ce que tu pourrais nous lire, s'il te plaît, 2 Chroniques 36, 16? Donc, le revival que Habakkuk priait depuis longtemps pour, Dieu avait déjà donné tous les outils pour. Il avait envoyé Isaïe, il avait envoyé Jérémie, puis il y avait d'autres petits prophètes aussi dans ce temps-là. Il avait envoyé Ézéchiel par après aussi à Babylone. Il s'est écrit, tu sais, ils raillèrent les prophètes, ils ont ridiculisé, ils ont rejeté, le peuple n'a pas voulu de ça. Donc, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont devenus sans remède. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez, je pense, des fois, on ne prend pas nécessairement le péché comme assez sérieux. Parce qu'on ne voit pas nécessairement tout le dommage. T'sais, vu qu'on a juste nos yeux physiques, on ne voit pas le dommage que ça peut faire à notre âme, à notre esprit, à notre conscience. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont fragiles et qui sont facilement endommagés et facilement brisés. J'ai une montre ici. Si je la mettais ici sur la table, bien sur la chaire, je prenais un marteau puis que je me mettais à taper dessus, un moment donné, on s'attendrait tous à ce qu'elle soit tellement brisée en petits morceaux que ce soit impossible de la réparer, de la faire fonctionner. Bien, on a quelque chose d'encore plus fragile est encore plus précieux dans notre âme, dans notre conscience. Faire attention à ça. C'est facilement brisé. Puis je pense qu'en effet, ceux qui viennent d'un background plus pêcheurs ici parmi nous, ils peuvent le dire qu'en effet, ben oui, on est sauvés, puis heureusement que le Seigneur nous a sauvés, mais que malheureusement, on a toujours un certain poids de notre passé qu'on traîne, puis qu'on va traîner probablement jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Puis toutes ces choses-là, peut-être au quotidien, on ne s'en rend pas compte d'une erreur, d'un mensonge, puis tout ça. Mais tout ce poids-là, ça agit sur notre conscience, ça agit sur notre âme. Puis on le traîne, puis c'est un poids qui est toujours de plus en plus lourd à porter. Puis là, ben, ça aurait été vraiment le fun si les jeunes Martin auraient pu être là, ou genre les jeunes Tessier, parce que j'aurais pu leur dire, vous avez la chance d'être élevé dans une bonne famille, essayez pas de faire des choses, des niaiseries, on est toute la preuve ici, ça vaut pas la peine. On aurait pu leur en parler, puis tout ça. Ça va pas là, fait qu'on fera pas cette parenthèse-là. Mais c'est le genre de choses qu'on peut partager, pareil, comme chrétien qui a été sauvé d'un background plus difficile. T'sais, le poids de nos péchés puis la réalité de ça, c'est important de comprendre, de faire comprendre ça aux jeunes, l'importance que ça, malheureusement, ça a de ne pas faire ces choses-là. Puis, ben, la vérité, c'est que pour certaines personnes, un revival, ça peut rien faire pour les aider à retourner à Dieu. On l'a lu dans Romains, t'sais, leur esprit, ben, il est rendu à penser que les choses bonnes sont mauvaises, que les choses mauvaises sont bonnes. Fait que tu leur présentes Dieu, ben, Dieu il est bon, mais pour eux, il est mauvais. Ça marche pas. Fait que, ben, ils n'ont pas besoin d'être sauvés de cette façon-là. Ils ont besoin d'être sauvés par le feu. Ils ont besoin d'être brisés encore plus, étonnamment. Puis, ça a été le cas pour moi. Moi, il a fallu que je sois humilié devant Dieu. Puis que je me rende compte que peu importe ce que je faisais, j'étais pas capable de rien faire pour que je puisse même considérer que Dieu était une option. Sans ça, ben, je vais l'essayer par moi-même, of course. Mais il a fallu que j'épuise tous mes moyens pour comprendre qu'il y avait une autre option que ça. Puis ça fut le cas ben, pour le roi babylonien que l'Éternel a utilisé, justement, dans ce cas-là. Lucie, est-ce que tu peux... Lucie et Estelle, est-ce que vous pouvez tourner dans Daniel 4, s'il vous plaît? Tourne. Daniel 4. Donc, Lucie, est-ce que tu peux nous lire les versets 29 à 23? 29 à 33. Lucie, 29 à 33 et Estelle, 34 à 37, s'il vous plaît. À la fin.
Yes. ses yeux que moi. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » En ce temps-là, la raison me revient. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peuvent abaisser ceux qui marchent avec la vie.
Amen. Donc, Nebuchadnezzar, le même roi justement qui avait passé sur Jérusalem 3 fois, ben, Dieu a décidé de le briser pour montrer sa gloire. Dieu a décidé de l'envoyer comme de le rendre fou, de le faire se prendre pour un animal et qui pendant 7 ans a marché ben, dans la nature, comme ça, comme un animal. Puis ben, quand l'Éternel lui a redonné la raison, le feu l'a sauvé. Le feu lui a fait réaliser son orgueil, lui a fait réaliser que c'est l'Éternel qui est au contrôle. Puis maintenant, bien, comme il est écrit au verset 39, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. De toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Donc, on est dans une genre de situation comme ça aujourd'hui. Puis mon application, je vais essayer de la faire courte. Mais dans une genre de situation un peu comme c'était en celle qu'Habakouk vivait à l'époque. Parce que le mal n'est pas caché. Parce que les gens prennent identité dans le mal. Parce que les gens pensent que le mal est bien. Je pense que les gens pensent que le bien est mal. Et puis, ben en effet, c'est important, il faut avoir l'attitude de foi qu'Habakouk avait de prier pour un revival. En effet, on voudrait que les cœurs reviennent à Dieu. Mais si, pour une raison ou une autre, ben Dieu décidait que c'était un jugement dont on avait besoin, bien, gloire à Dieu. Parce que c'est ça, en effet, qu'on a besoin. C'est pas parce que ce serait mieux, c'est parce que c'est parfait que Dieu le fait. Donald, est-ce que tu peux nous lire Éphésiens 5, 16, s'il vous plaît? Simple, mais Paul ici nous dit de racheter le temps parce que les jours sont pas parce que les jours sont courts, mais ils le sont. Pas parce que les jours sont peu nombreux, mais ils le sont. Parce que les jours sont mauvais. Puis l'ennemi, il est à l'œuvre. Puis l'ennemi, il empoisonne les cœurs. Puis l'ennemi, il agit dans les gens. Puis tranquillement, ben, il gagne du terrain d'une certaine façon. Nous, notre rôle là-dedans, ben, c'est de prier. Puis c'est justement de passer par-dessus ça, puis de prendre le devant. On ne peut pas rester assis, si on veut, puis s'attendre à ce que tout se passe à merveille. Parce que l'Éternel, si on laisse l'ennemi agir trop longtemps, ben, ce ne sera pas un revival qu'il va envoyer dans les gens, parce que les gens vont trop être dans leur péché. Ça va être un jugement, tout simplement. Puis, d'une certaine façon, ben, l'Éternel l'a déjà annoncé, que ça va être ça. Un jugement qui va arriver sur Terre dans l'Apocalypse. On le sait très clairement. Fait qu'on a une sécurité là-dedans. Parce qu'on sait, justement, à cause de ce qu'il a annoncé, qu'il est au contrôle. On sait que ce qui va se passer, ben, c'est pas pour le bien, c'est pour le mieux. C'est pour le parfait. Parce que Dieu fait ça de cette façon-là. Puis, ben, si ça donne que des fois, ben, on a des moments plus difficiles parce que, ben, on passe justement dans des moments où on est plus dans le péché, puis tout ça, ben on a au moins Romains 8 qu'on peut s'accrocher. Okay. Je vais le lire pour vous cette fois-ci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. On va sauter un peu plus loin. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On a l'assurance. On est une safe hands. Puis si un jugement vient, c'est parfois, tu sais, au niveau national, au niveau international, au niveau juste dans notre vie personnelle, au niveau d'une famille, tout ça, bien, on a l'assurance que c'est pour le mieux, puis que la gloire de Dieu est manifestée là-dedans. Puis que Dieu, il sauve même des Nebuchadnezzar. Puis il sauve même des Paul. Puis il sauve même des gens comme ça. Puis si Dieu a pu faire en sorte que le vendredi saint devienne le vendredi saint, tout peut devenir saint s'il le décide. C'est s'il a fait en sorte que la mort de son fils puisse être la résurrection pour tous, la vie pour tous, ben, on a assurance au moins qu'on est safe et que peu importe ce qui va se passer, c'est entièrement. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. On va prier ensemble. Seigneur, des fois, on peut avoir l'impression, en effet, qu'on est dans des temps lugubres, d'une certaine façon, que tout va mal, puis que le mal a la prédominance sur le bien. Mais merci qu'en se concentrant sur toi, puis sur ce qu'on sait de toi, ben on le sait que c'est faux, que c'est juste dans l'apparence. Puis c'est que quand le péché abonde, ben ta grâce surabonde encore plus. Puis que quand la noirceur est grande, ben ta lumière est d'autant plus grande. Puis quand les profondeurs sont profondes, ben tes hauteurs sont d'autant plus hautes. Puis merci Seigneur que tu sais ça, tu nous laisses pas dans ces moments-là, puis qu'on a l'assurance que, ben on est à toi. T'sais, tu es notre Dieu, tu es notre Saint. On est tien. Puis que quand on va partir pour la gloire, ben justement, c'est pas pour partir vers quelque part d'inconnu, mais c'est pour retourner à la maison. C'est pour retourner à toi, à celui qu'on appartient. Quelque part de connu, de bien, puis de parfait. Merci Seigneur que tu nous donnes tout ça gratuitement, puis que tu nous demandes simplement de vivre par la foi. C'est tellement simple, mais Seigneur, on a besoin de ta force pour faire ça. Aide-nous à voir au-dessus des nuages, puis à savoir que ben, t'es là, t'es l'éternel, que t'es de toute éternité, puis que t'es au contrôle de toutes ces choses-là. J'ai pris ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.